Chers frères et sœurs, en pensant à notre culte ce matin, en pensant à ma venue ici même, je me suis dit que j'avais envie de vous parler d'argent, de finances, de vous parler d'économie. J'avais envie de vous parler d'économie parce que notre commission d'animation financière est pleine de bonnes résolutions, certainement. Elle se soucie de notre santé budgétaire. Et la première chose que nous avons estimé utile de faire, c'est de la pédagogie. Parler de l'argent nécessaire à la vie de notre Église, certes, mais pour donner du sens à notre argent. Parce que je pense que c'est en donnant du sens à notre argent que vous serez ensuite incité à donner des sommes indécentes à notre Église. Bon, la vérité, c'est que j'avais surtout envie de vous parler d'économie pour que nous puissions un peu penser l'avenir de notre société et pas simplement de notre Église. Une société française aux prises avec la situation sanitaire que nous connaissons. Je ne vous retrace pas le tableau comme les pasteurs ont l'habitude de vous le faire chaque dimanche. Mais vous rappelez qu'avant la crise sanitaire, ce n'était quand même déjà pas vraiment la fête. Dans notre région, ne serait-ce que dans notre région, avec un tissu de PME quand même assez faible pour absorber les 10 000, 12 000 nouveaux habitants chaque année. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, si le secteur de la relation aux personnes est plutôt en bonne santé, vous pouvez vous douter ce qu'il en est de la restauration et du tourisme, qui sont les deux autres mamelles de notre économie locale. Alors, évidemment, vous pensez peut-être que je m'aventure sur un terrain qui n'est pas tout à fait celui d'un théologien et que je ferais mieux ce matin d'éviter cela. Autrement dit, est-ce que l'économie a vraiment lieu de faire partie du champ d'investigation du lecteur de l'Évangile? Je dirais oui pour deux raisons, tout en sachant très bien qu'il y a ici plus grand que moi, dont je ne suis même pas digne de délacer les chaussures, mais peu importe. La question qui se pose pour nous n'est pas celle de faire un traité d'économie, mais de réaliser que ce qui concerne notre monde nous concerne en tant que lecteur de l'Évangile. La théologie n'est pas la science qui se limite à l'étude de la prière et des sacrements. La théologie, c'est la science de Dieu, et Dieu, d'après ce que nous dit la Bible, est le Dieu de l'univers. Autrement dit, c'est ce qui est en interaction avec chaque aspect de notre vie. Non pas pour régler chaque aspect de notre vie, mais pour prendre sa part à chaque aspect de notre vie. Si l'économie a un rapport avec nous et que Dieu a un rapport avec nous, alors Dieu a un rapport avec l'économie. Une sorte de transitivité à peu de choses près. Ensuite, il y a une autre raison pour laquelle il n'est pas tout à fait inutile de penser de temps en temps les questions économiques sans vouloir faire un traité d'économie. C'est que la question économique est intimement liée à la Bible. La question économique est au cœur de quelques textes bibliques. Et il y a d'ailleurs une figure biblique qui est peut-être l'un des premiers économistes, et c'est notre Joseph. Joseph est peut-être le premier prix Nobel d'économie. C'est ce que j'aimerais vous montrer ce matin. Je vous propose donc aujourd'hui, à travers ce récit de Joseph en prison, qui est paradoxalement le point culminant de son histoire, alors qu'il est au fond du trou, comme on dit vulgairement, de parcourir l'histoire de ce patriarche économiste et de voir comment ce qu'il révèle a un rapport avec nous, individuellement et collectivement. Tout d'abord, il faut comprendre quel est le sens de l'économie dans l'univers de Joseph, qui n'est pas tout à fait notre univers, il faut bien en convenir, mais je pense que c'est tout à fait analogue. L'objectif de l'économie de Joseph, pour le dire très clairement, c'est de lutter contre le pourrissement des choses. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui encore, l'économie, d'un point de vue théologique, c'est l'art et la manière de lutter contre le pourrissement. Dans une société essentiellement rurale comme elle était à l'époque de Joseph, on le voit bien dans les textes bibliques, le gros du travail, c'est de lutter contre le pourrissement. Le raisin devient aigre, le blé pourrit, le lait tourne, tout le produit de la culture agraire tend à disparaître selon un phénomène tout à fait naturel qui est le grand désespoir du paysan. Eh bien, le travail de l'économiste, c'est de travailler sur cette donnée fondamentale selon laquelle tout doit disparaître. Et le bon économiste va réussir à maintenir le produit du travail qui tend à varier et même à dévarier dans le monde agricole. Au fond, le travail de l'économiste consiste à répondre à cette question: comment rendre invariable un produit qui dans quelque temps sera avarié? Il y a trois grandes réponses à cela. Donc ça va être un peu un cours d'économie, mais tranquille. La première réponse consiste à stocker. Pour éviter que quelque chose pourrisse, on le met dans un endroit où il sera à l'abri de tout ce qui pourrait le faire pourrir. On le met à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur, à l'abri de l'air, à l'abri de l'humidité et des changements de pression atmosphérique. Notez qu'à l'époque de Joseph, il n'y avait pas de frigo. Donc il fallait être sacrément inventif. Alors on crée des silos pour le blé, des citernes pour l'eau, des caves pour les fruits et légumes, et puis plus tard, quand la technologie le permettra, on créera des chambres froides, des congélateurs et l'emballage sous vide. Ça revient à mettre en place une guerre interminable contre le pourrissement. Mais le stockage n'est pas la solution définitive. Parce que ça peut même créer d'autres problèmes. Pensons à la société McDonald's. McDonald's a eu de gros problèmes de stockage. À cause de quoi ? À cause du milkshake. Il fallait stocker la glace. Ça prend une place folle et beaucoup d'argent. Donc le stockage de la glace, qui est un produit qui est très rapidement fichu, si on n'en prend pas soin, était finalement le caillou dans la chaussure de McDonald's. Et donc, je ne vous dis pas comment les choses ont été réglées, parce que ça vous écœurerait à jamais du milkshake, mais c'est pour vous dire que le principe du stockage n'est pas sans problème, et au fond, c'est déjà un problème qui se posait à l'époque de Joseph, et pour Joseph lui-même. Je vous parle un peu de l'histoire de Joseph maintenant. Joseph, c'est un des 12 frères de Jacob, et lui aussi a fait des rêves, et des rêves qui montraient qu'il allait avoir de l'importance dans la suite de l'histoire. Peut-être une importance supérieure à ses frères et sœurs, mais les sœurs n'en parlent même pas vraiment. Et on peut dire que les frères ont pris ça un peu avec jalousie, et ils se sont dit on ne va pas se laisser marcher sur les pieds par ce petit prétentieux, et donc on va le liquider. On va s'en séparer. Mais certains des frères disent non, on ne peut pas faire ça. Alors on va le stocker. On va le stocker. Et il est mis dans une citerne. Donc on le stocke dans un puits. Mais stocker Joseph dans un puits, ça n'aurait pas empêché qu'il pourrisse en fait. Vous voyez, c'est comme quand vous stockez, les BN dans votre chambre. À un moment donné, les fourmis arrivent. Ça ne va pas. Le stockage en soi n'est pas la réponse définitive. Au bout d'un moment, ça pourrit aussi. Outre le fait que le stockage est coûteux, il n'est pas toujours très efficace. Alors, Judas, l'un des 12, a une nouvelle idée en matière d'économie. L'un des 12 fils de Jacob. Il imagine une autre économie plus efficace. La solution de Judas, l'un des fils de Jacob, c'est de vendre Joseph pour 20 pièces d'argent. La solution de Judas, c'est l'argent. Échanger Joseph contre de l'argent. Et en plus, c'est rentable. On va voir que ce n'est pas aussi rentable que ce que vous pensez. L'argent permet d'échanger ce qui change contre quelque chose qui, a priori, ne change pas. C'est une façon de considérer qu'on trouve un moyen d'immobiliser ce qui, par nature, bouge pour que ça ne bouge plus. Ainsi, littéralement, l'argent qui prend la place de ce qui change, c'est donc ce qui prend la place de ce qui pourrit. Et donc, littéralement, l'argent, c'est de la pourriture. Vous voyez pourquoi il faut s'en débarrasser au moment de l'offrande. L'argent, c'est littéralement de la pourriture et de l'ordure, puisque c'est destiné à remplacer le phénomène de pourrissement de tout. La solution de Judas pourrait bien avoir inspiré d'ailleurs un autre Judas, quelques siècles plus tard, l'un des 12 disciples de Jésus, cette fois, qui se dit que peut-être que la bonne solution pour éviter que cette situation avec Jésus, les pharisiens, les sadducéens, etc., pourrisse trop, ça serait de vendre Jésus. En vendant Jésus, peut-être qu'on va éviter qu'il se fasse lapider sur la place publique. Bon, Judas l'Iscariote tentera de substituer la victime au sacrifice qu'il attend, par quelques pièces également. Non pas un acte de trahison, disent les évangiles, un acte de livraison. Vous voyez, c'est du click and collect, quasiment. Pour préserver l'excédent. Préserver ce qui doit périr, préserver celui qui doit pourrir. Bon, ça ne marche pas toujours comme prévu, l'économie. Hein. Ce n'est pas une science exacte. Les bonnes recettes d'autrefois ne donnent pas toujours les mêmes résultats quelques siècles plus tard. Ça veut dire qu'il faut toujours repenser notre façon d'envisager les situations. Mais, vous voyez, même avec cette histoire d'argent, on ne fait que retarder le pourrissement, en fait. Ce n'est pas encore la solution définitive. La monnaie ne sauve pas. Une fois que vous avez échangé toutes vos billes contre de l'argent, et que vous mettez votre argent sous le matelas, ben en fait, l'argent perd sa valeur. Bon, actuellement, il n'y a pas trop d'inflation, donc c'est vrai que ça ne perd pas trop de valeur, mais qui vous dit que dans 10 ans, il y aura encore de l'euro ? Ben, si vous avez encore vos billets d'euros sous le matelas et qu'on est passé à l'écu, eh bien, c'est fichu. Bon. Donc, la monnaie n'est pas aussi invariable que cela. La monnaie ne sauve pas, elle temporise, elle évite les catastrophes, elle offre un répit, mais elle ne répond pas à notre problème de pourrissement. Alors, venons-en maintenant à la proposition de Joseph, qui est à nouveau stocké, cette fois en prison, ce haut lieu du pourrissement de l'humanité, et en ayant fait personnellement l'expérience du stockage et de l'échange contre de l'argent, il a vécu, puisque c'est cette économie du stockage et cette économie de l'échange monétaire, eh bien il sait que ces deux solutions ne sont pas pérennes. Stocker du blé en l'entassant, en l'accumulant, il pourrira. Pour qu'il ne change pas, il faut le changer. Mais si vous le changez contre de l'argent, l'argent lui-même pourrira, en quelque sorte. Alors, la solution, c'est non pas l'échange, mais la transformation, la métamorphose. Voilà l'économie de Joseph qui n'est pas la seule économie possible, mais qui est celle qui nous est proposée. Pour que le blé ne change pas, eh bien en fait, il faut le changer. Pour que le lait ne tourne plus, il faut le détourner de ce qu'il est, il faut presque l'épuiser, épuiser ce qu'il peut donner. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Solution contre le pourrissement du raisin, du lait et du blé. C'est une réponse très française, hein. Le pain, le vin, le fromage. Et on est bien. Ce que vous avez produit devient autre chose. C'est ça l'idée de Joseph. Cette forme d'économie ne travaille plus sur le même, mais sur le différent. Ce blé n'est plus du blé, c'est du pain. On passe de la tautologie « ce lait est du lait » à la métaphore « ce lait est du fromage ». Ceci est autre chose. Et j'espère que vous entendez déjà la petite musique qui est derrière, qui traverse toute la Bible. Ne vous inquiétez pas, sinon je vais vous en parler un peu plus explicitement. La logique de Joseph est de cet ordre-là. Elle travaille sur la métaphore. On remplace ceci par autre chose, et ce n'est pas un échange, mais c'est un processus dynamique de transformation. Pour préserver ce qui est voué à périr, on le métamorphose, on en fait une métaphore. C'est cela que Joseph découvre dans la prison où il est stocké, en écoutant les deux autres personnes avec lesquelles il est enfermé, un vigneron et un boulanger. Deux hommes habitués à transformer ce qui varie en quelque chose d'invariant. Et c'est maintenant à leur tour d'être dans la situation du déchet sur le point de pourrir, et ces deux personnes se mettent à rêver. Le rêve est toujours l'expression d'un désir, qu'il soit conscient ou inconscient. Mais dans ce contexte, Il est intéressant de voir comment Joseph va interpréter ses rêves et comment cela peut nous aider à comprendre quelle est l'économie de Joseph. Joseph explique le sens du cep et des trois sarments, du fruit de la vigne qui est dans la coupe de Pharaon. Il explique le sens des trois corbeilles qui sont sur la tête du panetier. À l'échanson qui lui a demandé ce qu'est cette coupe remplie du fruit de la vigne, que lui dit Joseph? Il lui révèle, ceci est ton sang, et tu seras réhabilité dans ta charge. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Bon, lui ne s'en souviendra pas. Au boulanger qui lui a demandé ce qu'est cette corbeille de pain dans laquelle les oiseaux mangent, Joseph lui révèle, ceci est ton corps, et tu seras pendu au bois. Du coup, nous pouvons peut-être deviner quels sont les deux larrons qui ont été pendus au bois de part et d'autre de Jésus, peut-être un vigneron et un boulanger. Façon de dire que Jésus aussi était au cœur d'une économie de la transformation, et que Pâques est peut-être une manière de parler de cette économie de la transformation, qui fait que ce que l'on pensait avoir fait pour rire se retrouve en fait le ferment d'une nouvelle histoire. Aussi bien Joseph que Jésus montrent que celui que l'on veut jeter et rejeter, celui qui doit pourrir, celui qui n'est pas censé durer, va permettre de braver l'usure du temps et va même être le moyen de sauver ce qui allait être perdu autour de lui. C'est ce que va dire Joseph à ses frères plus tard, lorsqu'il va les retrouver. Ses frères qui avaient voulu l'éliminer, qui finalement l'avaient stocké et qui ensuite l'ont vendu. Eh bien, le déchet Joseph va sauver ses frères de la famine. C'est ça la grâce. C'est ça l'amour gratuit. C'est-à-dire, quand on nous fait des coups pareils, on n'a pas envie d'être gentil en principe, mais la grâce nous incite à demeurer toujours aimants. Et l'économie de Joseph consiste à sauver ses frères de la famine en transformant leur rapport fraternel. Ici, la Bible montre de quelle façon Dieu intervient dans l'histoire des hommes. Pas d'acte spectaculaire. Pas de choses qui défient les lois de la gravitation, les lois de la physique, de la biologie, etc. C'est une économie qui se fait dans l'ordinaire de notre vie. Ces petites métamorphoses du quotidien. Cette économie est une économie qui utilise la pourriture, ce qui doit disparaître, et en utilisant cela, l'économie de Joseph sauve le reste de la disparition. C'est une économie du salut, en fait. C'est une économie qui fonctionne par substitution au fil de la métaphore, qui cherche à faire autre chose que ce que nous faisons habituellement, c'est-à-dire des coupes budgétaires, des économies de petits bouts de chandelle, etc. Plutôt que de réduire la voilure, cette économie de Joseph prend ce qui doit disparaître pour en faire le ferment de la suite de l'histoire. Et vous voyez, c'est la même chose avec les relations interpersonnelles. Dans la Bible, il y a plein de situations qui sont en train de pourrir. Il y a Jacob et Ésaü. Il y a Abraham, Abraham et Sarai. Ça n'allait pas fort entre Abraham et Sarai. Ils devaient avoir un enfant, ils avaient plus de 100 ans, il n'y avait toujours pas d'enfant en vue. Et même pas le début d'un soupçon de retard de quoi que ce soit. Eh bien, que se passe-t-il pour Abraham et Sarai? Que se passe-t-il pour Jacob? Eh bien, ils changent de nom. On les transforme. Parce que quand ça ne peut plus marcher, il faut bien changer les situations. Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah, Jacob devient Israël. Les uns peuvent établir une relation nuptiale là où il n'y avait que du conjugal. Et Jacob cesse d'être le Jacob filou roublard qui a volé la bénédiction de son frère. Il devient Israël. Et qui est du coup quelqu'un de tout à fait aimable pour Ésaü. Et quand ils se voient, au lieu de se mordre, ils s'embrassent. Ça serait peut-être à vérifier parce que dans le texte hébreu, sur le verbe s'embrasser, il y a des petits points. sur le verbe hébreu. Et les rabbins disent, ce sont les traces des dents d'Ésaü sur la joue de Jacob. Bon, ils se sont quand même réconciliés finalement. Ce que Joseph dit des songes des deux larrons avec lesquels il est en prison résume l'économie biblique et la lecture biblique de l'histoire. L'économie biblique, c'est donc de conserver ce qui devrait être détruit, mais non pas de le conserver jalousement comme quelqu'un enterrerait son talent. On sait bien que quand on enterre son talent, on le perd. Non, il s'agit de garder ce qui est jeté comme une provision en prévision. Et nous rejoignons là la lecture biblique de l'histoire. Dieu prévoit, il voit par avance, il voit ce qui n'est pas encore visible pour nous ou ce que d'autres cachent, dissimulent, rendent invisible. On ne peut pas dire que Dieu a des petits yeux qui voient à l'avance la suite de l'histoire. Je veux dire que Dieu nous rend sensibles aux potentialités de chaque chose, de chaque situation, de chaque personne. Vous voyez, quand on fait un peu notre travail de discernement en Église, on peut voir les gens de deux façons différentes. Soit ce qu'ils donnent à voir actuellement, ils ont déjà réalisé tel exploit, ils ont déjà organisé telle action, ils ont déjà animé telle activité, donc on sait qu'ils sont capables de cela. Ça, c'est une bonne façon de repérer les talents. Mais il y a une autre manière qui est plus profonde, peut-être plus divine, c'est aussi de repérer les potentialités. De voir à travers ce qui a été légèrement esquissé, la pleine réalisation de talents qui ne sont encore qu'en germe actuellement. Paradoxalement, l'économie biblique, c'est de mettre les déchets qui sont rejetés en principe, ou parfois enfouis ou brûlés, c'est de les mettre au milieu de la voie publique. Mais de les utiliser, pas de les stocker sur l'espace public, de les mettre à disposition pour qu'on puisse en faire autre chose. Et vous voyez, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu recyclage, avait en fait de grandes lettres de noblesse à l'époque de Joseph. On ne parlait pas de recyclage, on parlait de métamorphose, de transfiguration. L'ordure qu'est Joseph, et ici ce n'est pas une métaphore, s'avère être le ferment nécessaire pour que la métaphore ait lieu, pour que la métamorphose ait lieu, pour que l'on passe du raisin au vin, du vin au sang, et que la victime soit épargnée. Et Jésus, comme le révélera Judas Iscariote, emprunte le même itinéraire, travaillant aussi sur l'économie de la métaphore, mais avec moins de succès, parce qu'il pense qu'on peut reproduire les recettes du passé sans avoir besoin de se réinvestir, sans avoir besoin de les penser par rapport au contexte particulier. Mais Jésus, lui, va reprendre la métaphore de Joseph. Quand il sera avec ses disciples pour le dernier repas, il fera exactement la même chose que Joseph. Vous voyez ce pain? C'est mon corps. Vous voyez ce vin? C'est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Non pas bêtement dans un acte ritualiste, mais plutôt comme une invitation à se rappeler que pour éviter que les choses se perdent et pourrissent, il faut les transformer. Ça signifie, par exemple, à notre niveau, que nous devons aussi transformer notre catéchisme de l'enfance pour qu'il devienne un catéchisme de l'adolescence, puis un catéchisme d'adulte, et puis après un catéchisme de super-adulte. Mais oui, parce qu'on n'en finit jamais de progresser dans notre compréhension de ce que Dieu désigne. Bon. Et donc, pour finir, cette économie de Joseph est une économie qui nous dit on ne peut pas laisser les choses en l'état parce que tout tend vers le pourrissement, tout tend vers le désordre. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Or, quel est l'intérêt d'une approche théologique de l'économie? C'est de repérer qu'il y a dans notre histoire de nombreux phénomènes qui vont contre cette logique du désordre, contre cette logique du chaos. Genèse 1 en parle comme d'une logique de la création. On prend le monde tel qu'il est, le tohu-bohu, on lui donne des noms, des fonctions, du sens, et ça devient vivable. Autrement dit, l'économie de Joseph consiste à prendre la situation telle qu'elle est, parfois un peu pourrie, pour la transformer et lui redonner le sens de la vie. C'est cela, le dynamisme créateur de Dieu. Amen.